Mais diantre, avez-vous vu vos montres à gousset et autres tablettes connectées ? Radio G, il est 20h. Bonsoir et bienvenue sur 101.5 Angers et puis avec toutes les méthodes maintenant nouvelles pour capter la radio qui ne va plus être que radio mais qui va vous suivre tout au long de vos chemins routiers et autres déplacements. Ça va être un vrai bonheur. C'est aussi la découverte de plein d'autres antennes à un lieu donné, mais il n'empêche que Radio G va voyager forcément avec vous quand vous suivrez les programmes. Et si c'est le cas ce soir, eh bien, bienvenue pour cette nouvelle saison de Quasar on the Air sur Radio G, énième année, puisque ça fait très longtemps que nous sommes là et nous en sommes très heureux. De quoi qu'on cause de jusqu'à 21h ? Très simple, Quasar on the Air, l'émission de radio de Quasar, Q-U-A-Z-A-R, un nom bizarre, le nom d'une association qui est en réalité le centre LGBTI+ d'Angers, acronyme qui signifie donc forcément lesbienne, gay, bi, trans et personnes intersexes, et le plus va pouvoir concerner les personnes asexuelles, les aromantiques et plein d'autres réalités. Semaine, ou plus exactement 15 jours, puisque ça fait déjà 15 jours que nous nous sommes quittés avec les programmes d'été, et nous entrons de plein pied dans cette nouvelle saison de ce Quasar on the Air, en quittant Quasar on the Été. Alors, comme d'habitude, le principe n'a pas changé. Nous avons toujours rendez-vous avec des invités. Nous allons parler football et homophobie dans le football, et nous allons parler transphobie dans le milieu du travail, puisqu'une affaire vient d'éclater, peut-être le savez-vous, grâce au courrier de l'Ouest dans le Segréen, mais finalement dans le Maine-et-Loire, avec une personne trans qui a déclaré et qui décrit des situations de transphobie et de harcèlement. Nous ne discuterons pas tant de l'affaire que comment les entreprises peuvent réagir et comment elles doivent se mettre en ordre de bataille pour pouvoir être réactives. Merci, je ne m'en demandais pas tant. Allez, avant d'ouvrir les pages de l'agenda, nous revenons sur la prestation de Nick Idol qui reprenait le titre de Britney Spears, Toxic, récemment à la Téloche. Vous ne bougez pas, on revient dans un petit moment.
Don't you know that you're toxic? And I love. sleeping in the days of the boys in paradise. I'm addicted to you, don't you know?
C'est si joliment demandé par Nick Doll, drague bien connue du programme Drag Race France. Et vous pouvez suivre d'ailleurs sur France 5 ses pérégrinations, ses voyages, pour être très très précis, partout dans le monde où elle va interroger les coutumes et le vécu des personnes transgenres et le vécu du genre. Allez, c'est l'agenda. On l'ouvre sur les activités de votre centre LGBTI d'Angers, Quasar. Alors, nous avons rendez-vous ce soir avec cette reprise de la saison radiophonique. Et vous notez tout de suite qu'on se retrouvera le jeudi 28, puisque nous reprenons notre rythme bimensuel. Alors que pendant l'été, nous avions profité d'être toutes les semaines. On s'aimait tant. Et on continue d'ailleurs. Demain, vendredi, c'est le 15 septembre, alors vous avez rendez-vous avec la traditionnelle conviviale, troisième vendredi de chaque mois à 20h, c'est un repas partagé. Vous venez dans les locaux de Quasar, au 15 rue de Jérusalem, entre l'avenue Pasteur et le boulevard de Croix, ou si vous préférez, l'enceinte du cimetière de l'Est. On amène de quoi partager, un peu plus que pour soi-même, avec d'autres personnes qui n'ont peut-être pas forcément toujours la possibilité d'amener quelque chose à partager. Le lendemain, samedi 16 septembre, alors plein de choses, c'est la reprise des cours de français délivrés par Sylvia avec une nouvelle formule cette année avec des travaux de groupe et des thématiques. Alors là, on parlera du temps. Le temps dans toutes ses grandes spécificités avec Sylvia. Vous pouvez vous inscrire d'ailleurs pour participer aux cours de français. Ce n'est pas réservé qu'uniquement aux demandeuses ou demandeurs d'asile. Ce peut être ouvert à toutes les travailleurs ou travailleuses du sexe ou toutes les personnes LGBTI+, qui ont besoin de se perfectionner en français et en français pratique. À 14h, toujours samedi 16, attention, notez bien l'horaire, c'est un temps et un rendez-vous spécial proposé par Ed avec une intervention en santé sexuelle à destination des personnes transgenres, à genre et non binaires. À 15h, c'est Transat, toujours pour les personnes transgenres, à genre et non binaires. Cette fois-ci, c'est le groupe d'échange mensuel. Donc, vous venez, vous vous inscrivez et c'est en mixité choisie puisque c'est non mixte en réalité. Les personnes cisgenres n'y assistent pas. Et puis, comme tout samedi, eh bien, à 17h, c'est la permanence hebdo. Mercredi 20 septembre, c'est la permanence juridique puisque vous le savez aussi, Quasar vous propose un accueil permanent du lundi au vendredi de 14h à 19h avec ou sans rendez-vous. Vous venez nous voir pour découvrir l'association, pour adhérer, pour nous poser toutes vos questions. Samedi 23, toujours cours de français à 10h et à 15h, c'est la permanence pour les jeunes de 15-25 et puis la permanence à 17h. Mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29, c'est la rencontre puisque Quasar accueille Grey Pride, on vous en reparlera d'ici là. Et puis le samedi 30, c'est cours de français toujours à 10h et la permanence à 17h. Notez bien que pour Grape Ride, il y aura des rencontres avec les professionnels des EHPAD pour le bien vieillir LGBTI+, pour la santé aussi, et l'accompagnement des personnes concernées. Youpi, on est content. Quasar on the air, dans quelques instants, notre premier invité. Vous restez calés, on est là avec vous, on ne bouge pas. Ne vous inquiétez pas, il arrive, Trojan. Sivan, qui était dans la playlist, souvenez-vous, de l'été de Committed. C'était pas l'été de Committed, c'était la playlist de Committed. Allez, on y va pour cette nouvelle saison. Nouveaux invités, je vous l'ai dit, nous allons parler football. Et pourquoi nous parlons football? Parce que l'été, même s'il y a en cette rentrée une Coupe du Monde de rugby, ça on a bien compris, il s'est passé un certain nombre de choses et les combats contre l'homophobie dans le football continuent. C'est pour ça que nous rejoignons Julien Pontès, qui est le porte-parole de Rouge Direct. Julien, bonsoir.
Bonsoir Stéphane.
Alors, on se reparle ce soir particulièrement parce qu'il y a eu plusieurs actualités au sein du monde footballistique et particulièrement des propos homophobes de ce joueur de Metz notamment et les conséquences. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'épisode et vous, votre analyse par rapport à ce qui s'est réellement passé?
Oui, ben où le FC Metz donc a un joueur qui s'appelle Kevin Endoram. Et Kevin Endoram, à la télévision, il a eu un commentaire en direct sur son équipe qui considérait qu'elle jouait mal, et donc il a dit que il jouait comme des tapettes. Voilà. Donc là, on est clairement sur l'injure homophobe.
On est clair.
Et donc voilà. Donc du coup, la Ligue de football professionnel doit sanctionner hein, à travers sa commission de discipline. Et nous, on attendait impatiemment le verdict de la commission de discipline. On a été extrêmement déçus parce que ce joueur n'a eu que un match avec sursis, alors que normalement le barème c'est 10 matchs de suspension. Donc c'est totalement scandaleux, mais malheureusement c'est l'habitude de la Ligue de football professionnel et du foot français en général de ne pas sanctionner l'homophobie à la hauteur de la gravité de ce qui se passe.
Si on compare par rapport aux autres ligues européennes par exemple ou à l'étranger, est-ce qu'on a des exemples, est-ce que vous à Rouge Direct vous connaissez des exemples où vraiment les sanctions sont beaucoup plus sévères que ce qu'on vient de dire?
Oui, bien sûr, hein, toute l'Europe du Nord, la Norvège, les Pays-Bas, là, les sanctions tombent directement, beaucoup plus lourdement, mais même l'Angleterre, hein, pourtant, il y a des enjeux financiers très importants en Première Ligue anglaise, mais depuis 2 ans, 3 ans, eh bien, la Première Ligue a décidé d'appliquer une politique de tolérance zéro par rapport à l'homophobie. Et ça s'en ressent sur les sanctions qui sont prises contre les auteurs de faits d'homophobie. Donc régulièrement, des supporters qui ont des comportements homophobes pendant les matchs ont non seulement ils sont interpellés par la police, ils ont une plainte sur le dos, et puis quand ils sont condamnés, ils ont aussi des interdictions de stade d'un an, 2 ans, 3 ans, et même des interdictions de stade à vie décidées par le club de Brighton, vu que Brighton c'est une ville avec une communauté LGBT très importante. Donc les joueurs de Brighton, de l'équipe de Brighton, sont visés par des injures homophobes très régulièrement. Et là, la Ligue anglaise a décidé de sévir. Elle fait bien. C'est comme ça qu'il faut faire, hein, parce que la prévention, c'est très bien, mais si on n'applique pas les sanctions, ça veut rien dire, c'est pas cohérent. Et donc, eux, ils marchent sur leurs deux pieds. Il y a la prévention et puis il y a la sanction qui tombe. Et ça donne un signal à tout le monde, dans le monde du football et ailleurs, et plus largement, de dire que l'homophobie, ça passe pas parce que c'est un délit.
Et on est bien d'accord. Sur le point que tu viens d'évoquer à l'étranger, en comparaison avec les méthodes françaises, qu'est-ce qui coince fondamentalement en France, selon toi et selon l'analyse que vous avez? Ça veut dire que nous avons des dirigeants de ligue qui sont eux-mêmes homophobes et qui sont extrêmement gênés au coin, aux entournures et tout le temps et partout pour pouvoir appliquer des règles beaucoup plus strictes et des sanctions beaucoup plus strictes, ou est-ce qu'on ménage l'aspect économique du football qui est très important en France?
Oui, ce sont les deux en fait. Hein. Ce sont les deux raisons qui expliquent qu'il n'y a pas de répression de l'homophobie comme c'est prévu par les règlements ou par la loi. Par exemple, c'est vrai que dans le monde du football, les dirigeants méprisent totalement la lutte contre l'homophobie. On le voit très bien avec Noël Le Graët, hein, l'ancien président de la Fédération française de football, qui se vantait d'avoir été un des leaders, hein, je le cite, hein, un des leaders contre le port du brassard arc-en-ciel pendant la Coupe du Monde au Qatar, au sein de la FIFA. Voilà, il s'en vantait dans le Figaro pendant la Coupe du Monde. Et puis, le président de la Ligue de foot professionnel ne vaut pas mieux hein, sur l'engagement contre l'homophobie. Après, sur les questions financières, là, c'est tout à fait juste. Parce que, par exemple, quand il y a des faits d'homophobie, de racisme dans un stade pendant un match, normalement, il y a une circulaire de la FIFA, hein, l'instance mondiale de lutte, l'instance mondiale du football. Il y a une circulaire de la FIFA, la circulaire 1682, hein, qu'on peut retrouver sur Internet très facilement. C'est la circulaire tolérance zéro contre les discriminations. Ça veut dire que toutes les ligues et toutes les fédérations mondiales doivent arrêter un match quand il y a des faits d'homophobie ou de racisme. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les droits de diffusion qui sont payés à prix d'or hein, par les diffuseurs, ils peuvent acheter des droits de diffusion pour des matchs qui s'arrêtent au bout d'un quart d'heure. Donc, c'est pas possible, économiquement parlant. C'est pour ça qu'il n'y a pas non plus de répression de l'homophobie, parce que ce serait économiquement un vrai problème. En ce moment, il y a l'appel d'offres de la Ligue de foot professionnel pour la vente des droits de diffusion des matchs du championnat de France. On parle de 1 milliard d'euros pour la vente des droits de diffusion des matchs. Eh bien, nous, ce qu'on dit, Et on communique, on a fait un communiqué de presse pour ça, pour dire que, attention, les diffuseurs, attention, parce que la Ligue de football professionnel, qui ne fait rien contre l'homophobie, va vous vendre des matchs qui sont indiffusables. Les diffuseurs qui diffuseront les matchs de football avec des chants homophobes, ils vont s'exposer à des poursuites pénales. On a porté plainte contre Amazon Prime, hein, qui est le diffuseur actuel des matchs du championnat de France. On a porté plainte contre eux en mai dernier, avec Étienne Desoulières, notre avocat. On attend le résultat de la plainte. Mais en tout cas, il faut que les diffuseurs sachent que nous, on portera plainte systématiquement pour tout match qui sera diffusé avec les chants homophobes qui vont avec, et les chants homophobes sont systématiques dans le championnat de France. Voilà, donc là, si tu veux, on est en train de dire que dire aux gens, à l'opinion publique, que la question de l'homophobie peut coûter très cher à la Ligue de foot professionnelle, qui a des dimensions éthiques et juridiques en France sur l'homophobie, qui font qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et vendre à n'importe quel prix des matchs qui sont proprement indiffusables, pas commerciables.
Dans ce Quasar Anzier rentré, nous recevons Julien Pontès, qui est porte-parole de Rouge Direct et qui nous expliquait justement l'action de l'association. Donc on voit bien, c'est taper au portefeuille finalement et bien faire comprendre aux diffuseurs qu'il là, il y a un problème. Est-ce qu'on n'a pas aussi un problème du côté du gouvernement qui ne prend pas un certain nombre de responsabilités par rapport à ces situations-là?
Ouais. Alors ça, c'est très juste. C'est une vraie question. Il se trouve que on a rencontré la ministre des Sports il y a une dizaine de jours, et Amélie Oudéa-Castéra s'est montrée très claire sur sa volonté de sanctionner enfin l'homophobie comme il se doit dans les stades de football. Bon, on a ressenti une vraie conviction, un vrai engagement de sa part pour sanctionner enfin l'homophobie. Voilà, maintenant, on a fait des propositions sur des dispositifs qui permettent de mieux sanctionner l'homophobie dans les stades. La balle est dans son camp, hein, si je peux me permettre. On a confiance, on a déjà eu des engagements d'autres ministres des Sports en ce sens. Maintenant, à elle de montrer qu'elle est capable de passer de la parole aux actes. Nous, on fait le boulot qu'on doit faire, hein, c'est-à-dire que on alerte les pouvoirs publics, on attend des relais politiques, parce que finalement, la ministre des Sports, c'est la patronne. La Ligue de foot professionnelle, la Fédération française de football, agissent par délégation de services publics du ministère des Sports. Donc c'est elle qui a la main. Donc c'est à elle d'imposer toutes les dimensions éthiques du sport, qui sont totalement oubliés à travers des appels d'offres comme ça, mirobolants à 1 milliard d'euros. Nous, on est là pour montrer que, bah ouais, on est dans un état de droit. Désolé pour la loi de l'argent, mais on est dans un état de droit et qu'on peut pas faire n'importe quoi en France, et que l'homophobie, c'est un délit qui doit être pris au sérieux comme l'antisémitisme ou le racisme. Et donc, on va voir dans les semaines qui viennent. On est confiant. On a fait des propositions très précises. Elle les a acceptées. Donc maintenant, on va pouvoir vérifier que elle respecte ses engagements. Hein. On n'était pas seul, on était avec d'autres associations LGBT dont FLAG, hein, quand même, les policiers, la police et justice LGBT, qui étaient présents à cette réunion avec la ministre. Donc maintenant, elle s'est engagée. Donc maintenant, il va falloir qu'elle passe vraiment au concret.
Et parmi les propositions que vous faites, est-ce qu'on peut avoir un petit avant-goût léger ou c'est secret?
Je vais dire un tout petit mot, oui. Parce que ça, il ne faut pas non plus
tordre le bras. Je salive, alors hein, c'est pour ça, j'ai besoin. Ouais.
Pour tout dire, il y a des dispositifs qui ont marché par le passé et qui marchent en Angleterre. C'est-à-dire qu'en Angleterre, il y a une coordination entre la police et les directeurs sécurité des clubs. Mmh. Ça, c'est très important. Nous, on y ajoute aussi des militants LGBT. Et on travaille sur ce sujet, on travaille avec un partenaire qui est très sûr, très solide, qui est la Fédération LGBT, qui regroupe tous les centres LGBT de France. Parce qu'on veut que ce soit sur toute la France, hein, ces commissions d'observation pendant les matchs de football. Donc la Fédération LGBT nous a dit banco, on y va, on va vous trouver des militants pendant les matchs. Et c'est très important parce que normalement la Ligue envoie des délégués de match, mais ces délégués de match, ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas les chants homophobes quand on entend « il faut tuer ces PD de Parisiens, il faut tuer ces PD de Toulousains hein, ». C'est ce qu'on entend au Stade Vélodrome par les supporters de l'OM systématiquement à chaque match. Ben voilà, si on met des militants LGBT, des gens engagés dans les stades pour faire état de ce qui s'est dit et de ce qui s'est entendu, eh bien, on fera avancer les choses. Je pense qu'il faut vraiment profiter du cadre dont on dispose en termes de législation pour vraiment faire respecter les personnes LGBT et ne pas laisser passer toutes ces injures qui sont banalisées dans les stades de football. Mais quand c'est banalisé dans un sport aussi populaire que le football, c'est banalisé dans l'ensemble de la société. C'est pour ça que nous, on s'attaque au football, à l'homophobie dans le football, vu l'audience et l'influence du football dans toute la société, et en particulier auprès des jeunes.
On est bien d'accord. Petite question taquine par rapport à ce dispositif. Est-ce que vous vous sentez d'œuvré aussi dans le monde du rugby ou vous vous cantonnez simplement au football ?
Bah, dans le monde du rugby, il se passe des choses intéressantes. Je veux dire, ils n'ont pas besoin de rouge direct en particulier. La Ligue de rugby, la Ligue nationale de rugby est beaucoup plus engagée dans la lutte contre l'homophobie. Donc nous, on regarde ça de près. On est en soutien de toutes les luttes contre l'homophobie dans toutes les disciplines sportives. Le rugby a l'air d'être un peu plus en avance. Le rugby est moins exposé, hein, sauf en ce moment avec la Coupe du Monde.
Oui.
Mais sinon, toute l'année, le rugby est quand même moins exposé. Et puis, ils n'ont pas le problème des supporters qu'on a. Hein, nous, dans le football, on a le problème des ultras en particulier.
C'est ça.
Qui sont très conservateurs et qui ne veulent pas entendre parler des chants homophobes.
Oui.
Alors, on essaye de discuter au maximum avec les ultras, avec les associations, les clubs de supporters, mais nous, on sait que il y a 75 000 supporters affiliés à des clubs de supporters pour la Ligue 1, dont 47 000 ultras. Donc c'est énorme, énorme. Si la Ligue de foot professionnel avait vraiment l'intention de sensibiliser, de faire de la prévention auprès des supporters, il faudrait qu'elle déploie des moyens importants pour faire de la prévention. Ouais. Et elle manque pas d'argent. Là. Elle est en train de vendre des droits télé à 1 milliard d'euros. Alors, on va pas nous faire croire qu'ils n'ont pas les moyens de mettre en place des dispositifs efficaces contre l'homophobie dans le football. Ils ont les moyens, c'est juste une question de volonté. Et là, on compte sur la ministre pour un peu les forcer à faire ce qu'ils doivent faire, tout simplement.
Voilà, c'est bien ce qu'on va regarder maintenant. Un grand merci, Julien, d'avoir été avec nous ce soir pour détailler tous ces points, et puis on reviendra là-dessus, forcément. Très belle soirée, et c'était Julien Pontès de Rouge Direct. Bye.
C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin, ne me lâche pas la main. C'est la fin, le soleil s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau, à rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire.
justement. Un peu balèze, hein, quand même. Ah, ça, c'est pour ceux qui connaissent la pochette et qui s'en souviennent, mais alors... Peut-être leurs premiers émois, qui sait. I'm a man, macho. Et on se demande pourquoi, sur la face verso de la pochette du 33 ou du Maxi 45, on tombait en pâmoison devant ce torse velu. Époque vraiment du disco, hein, comme elle le chantait, Juliette Armanet, le dernier jour du disco. Non, pas vraiment le dernier jour, parce qu'on est là. Et justement, on voulait se souvenir. D'époque. Là, vraiment disco-disco, puisque Juliette Armanet, bon, c'était il y a 2 ans exactement, avec ou 1 an et demi avec son jour du disco, mais là, le Silver Convention, Get Up and Boogie. Boogie, boogie. Allez, 20h36, tout de suite, nous rejoignons un nouvel invité sur Quasar, Andy Air, et nous allons parler des entreprises, comment elles peuvent s'adapter, ce qu'elles doivent en réalité faire par rapport à la question de l'homosexualité de ses salariés et de la transidentité, ou plus exactement des transidentités. C'est pour ça que nous avons au téléphone maintenant avec nous, depuis Nantes, Jean-Luc Ricot, qui est président de l'autre cercle de la Loire. Bonsoir Jean-Luc.
Bonsoir.
Alors, on a décidé de parler ensemble justement de ce que peuvent faire et ce que doivent faire les entreprises à l'aune de cette affaire qui se dévoile actuellement sur le Maine-et-Loire d'une jeune personne trans féminine qui décrit une situation de transphobie au travail. On va pas s'attarder sur ce cas précisément puisqu'on n'a pas tous les éléments, ni l'autre cercle, ni nous à Quasar, bien qu'on ait échangé les uns les autres avec le journaliste qui a fait le papier. Mais ce qui me semblait intéressant, là, pour celles et ceux qui sont d'abord concernés par la transidentité ou les transidentités, mais aussi celles et ceux qui sont en entreprise ou qui sont en responsabilité, c'est de pouvoir discuter sur l'homosexualité, particulièrement sur l'identité de genre. Comment est-ce que finalement une entreprise peut et doit faire? Parce qu'on est bien d'accord, là, en l'occurrence, ce n'est plus une question de droit, mais c'est une question de vouloir, véritablement.
Alors, de toutes les façons, déjà, toute action au sein du monde du travail, que ce soit privé ou public, qui amènerait une situation de discrimination, mais l'employeur, public ou privé, hors la loi déjà, hein, on est bien d'accord.
On est d'accord.
Dans le monde du travail, on juge les gens pour leurs compétences, pas pour leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. C'est bien clair. Les personnes doivent être protégées et on doit leur proposer un cadre respectueux en fonction de leur singularité. Ça, c'est la loi.
Et on peut justement, rappeler que c'est dans le code du travail que les premières dispositions de protection des personnes homosexuelles sont apparues bien avant la création des critères et des circonstances aggravantes d'homophobie et ainsi de suite. Hein. Ça fait bien longtemps que le monde du travail avait commencé cette œuvre-là.
Oui, tout à fait. Et puis, comme tu le rappelles, voilà, il y a un certain nombre de codes pénal, le code civil, le code du travail, qui garantissent un cadre et qui permettent normalement à chaque salarié d'être protégé dans son activité professionnelle. L'activité professionnelle, quelle que soit l'activité professionnelle, ce n'est pas une espèce de plateforme dans laquelle on est là pour juger la vie privée des gens ou la façon dont ils organisent leur vie amoureuse, sentimentale. Voilà, c'est pas du tout. Ce qui est important, alors la situation, comme vous le disiez, on la connaît pas. Mais par contre, elle est certainement symptomatique encore de malaise que peuvent éprouver certains cadres ou certains responsables d'entreprise devant des situations qui leur semblent tellement singulières qu'ils ont du mal à trouver un comportement adapté, même si la loi leur dicte que normalement, il ne devrait pas faire de différence entre les personnes qui sont sous leur autorité.
On est bien d'accord. Alors, dans le cas justement où on est dans une entreprise où il y a un RH ou une RH, normalement, la personne est informée, je dis bien normalement. C'est peut-être un peu plus compliqué quand ce sont des entreprises qui n'ont justement pas de service de cet ordre-là, avec moins de salariés. Là, les responsables sont livrés un peu plus à eux-mêmes. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils ont comme ressources pour pouvoir se dépatouiller et entrer dans la légalité de la situation d'un ou d'une salariée?
Alors déjà, en général, quelles que soient les entreprises, elles sont toujours affiliées à des fédérations. Le bâtiment, c'est la CAPEB, ça peut être une CCI. Il y a des fondations d'entreprises, je pense à FAS ou à Entreprendre dans la Cité. Je veux dire, une entreprise, elle est rarement seule si elle veut ne pas être seule, hein, quelle que soit la taille d'entreprise. Je dis ça puisque dernièrement, nous sommes intervenus, nous avons fait deux interventions auprès de FAS, donc les Fondations pour l'Action contre l'Exclusion, où il y avait un regroupement de petites entreprises qui étaient présentes, avec qui on a pu échanger et vers qui on a proposé des temps de sensibilisation sur les questions de LGBT-phobie dans l'entreprise, avec tous les risques que ça peut avoir pour le salarié, mais aussi pour l'employeur, évidemment.
Hein. Donc, quand on veut, on peut.
Quand on veut, on peut, si on a envie d'en savoir quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a, en effet, un certain nombre d'outils. Bon, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais l'autre cercle a mis en place un certain nombre de guides, dont un guide sur la transidentité en entreprise, que les employeurs peuvent trouver sur le site de l'Association nationale des DRH. C'est un guide qui nous a été commandé, puisque la question de la transidentité est une question en effet sensible, devant lesquels un certain nombre de personnes sont très mal à l'aise, et il n'est pas question, évidemment, de balayer les choses ou de mettre la situation sous le tapis. Il est question, justement, à partir de ce guide, de prendre en compte la situation et de voir après comment la transition d'une personne peut être intégrée dans le calendrier professionnel de cette personne. Et c'est vrai que je peux en parler avec certaine facilité, parce que un certain nombre d'entreprises en région, dont sur la région Pays de Loire, nous ont contactés pour, à partir de ce guide, voir comment ils pouvaient mettre en place ces temps de on va dire, c'est un calendrier qui permettait à certains de leurs salariés de pouvoir permettre leur transition sans que cela devienne une difficulté pour le salarié, une difficulté pour l'équipe, et que ce soit compréhensible par tout le monde. Voilà.
Alors, on rappelle peut-être, et c'est utile pour celles et ceux qui nous rejoignent, ce qu'est l'autre cercle très exactement, peut-être.
Ah oui, c'est vrai. On pourrait aussi. Alors, l'autre cercle, c'est une association qui a 25 ans d'âge, c'est une fédération, puisque nous sommes on est dans toutes les régions de France. C'est une association qui a pour but de développer soit des outils, soit de la sensibilisation, soit de la formation pour aider les employeurs à mettre en place une véritable politique de diversité et d'inclusion en direction des personnes LGBT. Alors, si les gens vont sur le site, ils verront, il y a des publications, il y a des enquêtes, on a fait un certain nombre de guides, le dernier c'était sur l'invisibilité des femmes homosexuelles ou lesbiennes vivant avec une femme, ou bi, vivant avec une femme, ça peut être d'autres types de publications, et puis à côté de ça, c'est vrai qu'on on a développé un certain nombre de sensibilisations, de formations en direction des employeurs privés ou publics, hein, je le rappelle. Hein.
Oui, effectivement. Et dans le cadre justement des deux types possibles, de toute façon, ça ne change pas fondamentalement la donne. Les questions les plus fondamentales sont celles de découvrir les dispositifs d'après votre expérience et des retours que vous avez, ou finalement de briser les stéréotypes qui bloquent l'application de toutes les dispositions à la disposition des entreprises.
Alors moi je pense qu'il y a surtout une méconnaissance dans un premier temps, et ensuite il y a certainement des réflexes qui font que les personnes sont un peu en panique devant ce genre de situation. Alors ce qu'on peut entendre dans certaines entreprises qui n'ont pas maturé, hein, parce que beaucoup d'entreprises se mettent au travail sur ces questions-là, mais dans certaines entreprises qui n'ont pas maturé, c'est ce qu'on entend, c'est il n'y a pas de ça chez nous. Mais on ne sait pas ce que c'est, ça, d'ailleurs.
Et oui, c'est toujours le voilà. Ça problématique.
Voilà, ça, on ne sait pas ce que c'est, mais il n'y a pas de ça chez nous. Donc, il faut passer par-dessus ces espèces de freins, un peu, je sais pas comment on peut dire, des freins archaïques qui font que les gens sont tellement mal à l'aise devant ces situations que je ne sais pas à quoi ça renvoie. C'est assez étonnant. Donc, c'est vrai que le travail, c'est un travail de déconstruction des stéréotypes, des préjugés pour arriver à l'idée même que nous sommes en face d'une situation personnelle d'un salarié qui peut être géré dans l'entreprise, et que l'entreprise ne peut pas se passer d'un de ses employés parce que il a un savoir-faire, parce qu'il est intégré à une équipe, et que parce que l'équipe peut aussi soutenir son salarié en ne comprenant pas aussi le comportement de l'entreprise qui serait rejetante.
Et de rappeler que ce n'est pas non plus un argument que de dire que la clientèle va être dérangée à ce point qu'il faut effectivement se séparer du salarié.
Exactement. Et puis en plus, dire ça, ça serait se mettre en faute. Hein. De toute façon, c'est très clair aussi. Hein.
Oui,
ça... Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne sont pas informées, qui ne sont pas préparées au suivi, à l'accompagnement d'une personne en transition au sein de son entreprise, mais Moi, je vois par l'expérience qu'on a eue, je pense à certaines entreprises régionales qui sont pas obligatoirement des start-up ou des entreprises extrêmement pointues, où on peut imaginer qu'il y a que des jeunes qui sont très ouverts. Moi, j'ai eu à traiter dernièrement ou accompagner une entreprise du fin fond de la Vendée qui est plutôt dans un créneau qui est plus plutôt dans le de métallurgie et fabrication, où vraiment la DRH a eu l'intelligence à un moment donné de chercher sur Internet comment elle pouvait se faire accompagner et aider, parce qu'elle se retrouvait dans une situation où elle était pas du tout rejetante, mais mal à l'aise, elle savait pas comment faire. Sur Internet, elle a cherché LGBTphobie entreprise, pouf, elle est tombée sur le site L'Autre Cercle, et du coup, on a mis en place avec elle tout un protocole d'accompagnement, c'est-à-dire qui fait quoi, qui est responsable de quoi, comment on communique, qu'est-ce que doit faire ou peut faire l'entreprise. L'entreprise ne peut pas tout faire non plus, hein. Il y a aussi du domaine privé. Parce que à l'inverse, j'ai eu des situations d'entreprise où la DRH était tellement volontariste qu'elle aurait presque accompagné la personne dans ses
différents
rendez-vous. Voilà. Donc il faut arriver à trouver un juste milieu qui est celui de l'accompagnement, qui est en lien avec le monde du travail, un monde du travail qui doit être respectueux. C'est-à-dire qu'il doit être bienveillant.
Justement, c'est ça la difficulté pour les employeurs, DRH ou directement gérants ou directeurs, c'est que en plus de l'application du droit du travail spécifique sur les questions de personnel ou de salariés homosexuels ou transidentitaires, il y a aussi à connaître, sans forcer ni devancer l'appel, la situation propre des personnes concernées. C'est-à-dire que pas dans le domaine du privé, mais du parcours que les personnes vont avoir à suivre pour en être d'une certaine façon imprégnées et comprendre pourquoi les demandes sont faites dans cette ordre-là.
Alors, c'est vrai que vous avez raison, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui sont exemplaires sur ces questions-là. Bon, je ne sais pas si à l'antenne on peut citer des entreprises.
Ah, si, on peut, oui.
Voilà. Bon, je pense à Accenture, je pense à OnePoint, je pense à Orange. Ce sont des entreprises qui ont vraiment développé un véritable accompagnement avec des personnels qui sont dédiés pour réfléchir à ces questions, et ce qui permet, en effet, devant une situation, ne pas être complètement dépourvu et ne pas être paniqué en se disant alors que va dire le client, que vont dire les collègues. C'est des gens qui anticipent. Moi, je le vois aussi avec certaines collectivités qui commencent déjà à anticiper des situations en se disant de toute façon, le jour où une situation va arriver, si on ne s'y est pas préparé, on va faire n'importe quoi, oui. Et peut-être qu'on va mettre en difficulté la personne et l'institution. Voilà. Je pense que prévenir les choses, c'est-à-dire se renseigner, identifier aussi les risques, hein. Moi, des fois, en entreprise, je parle de cartographie des risques, c'est-à-dire les endroits où, oui, il faut faire attention, la façon dont on va s'exprimer, la question des vestiaires, la question des toilettes, voilà. La question aussi du
de genre, c'est-à-dire
ne pas appeler la personne comme elle le souhaite. Au sein d'une entreprise, si la personne dit, voilà, je m'appelle, je sais pas, François, je veux demain qu'on m'appelle Françoise, rien n'empêche l'entreprise de le faire. Hein. On est bien d'accord.
Absolument rien, effectivement.
Ça relève du règlement intérieur. Le changement de nom, c'est autre chose, c'est une procédure judiciaire. Le changement de genre aussi, mais l'entreprise peut être en effet à l'écoute. Oui. C'est-à-dire, à un moment donné, voilà, on sait qu'il y a cette transformation qui va se faire dans la vie de notre salarié. C'est l'exemple de cette entreprise de Vendée, avec qui vraiment, j'ai vraiment eu là une interlocutrice en termes de ressources humaines, que je trouvais vraiment une femme très attentive et qui voulait surtout ne faire les choses comme il faut. Mm-hmm. Voilà, pas plus, pas moins.
Et c'est faire des choses comme ça. C'est un bon exemple qui achève notre conversation. C'était Jean-Luc Ricot, président de l'Autre Cercle Pays de la Loire. À très bientôt, Jean-Luc, m'a-t-on dit, prochainement en octobre, il paraît-il, aussi pour intervenir sur le domaine de l'accompagnement des entreprises, mais cette fois-ci dans le privé. Très belle soirée, merci d'avoir été disponible. Au revoir.
Merci à vous, au revoir, bonne soirée.
Allez, un peu de tendresse. Transphobie, ce n'est jamais, jamais tolérable. Nicolas Maury, quelques prémices.
Et des rencontres qui marquent à jamais. Sois sûr que cet instant, je m'en souviendrai. Ta beauté insolente, ton air un peu loupard. Qu'est-ce que tu foutais là, dans la ville abandonnée, Paris au mois
J'avais presque oublié ce sentiment farouche d'un inconnu qui vous parle, mais l'envie qui vous touche, je sens quelque chose en moi pousser comme une fleur. Arrose-moi de ta voix et viens cueillir mon cœur. Ça fait tellement longtemps que je te cherche partout, mon délicieux amant.
Voix de Nicolas Maury, l'acteur et chanteur, réalisateur. Il est tout ça à la fois et c'est un plaisir. Alors lui, il est pulpeux aussi, mais physiquement. Lil Nas X, Star Walking, l'hymne de League of Legends.
Ready to go far and start walking. Don't ever say it's over if I'm breathing. Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars. Ready to go far and start walking. On a mission and get high up. I know that I'ma die. Reaching for a light that I don't really need at all. Never listen to replies. Learn the lesson from the wise. You should never take advice from somebody that ain't tried. They said I wouldn't make it out alive. They told me I would never see the rise. That's why I gotta get them every time. Gotta watch them bleed too. Don't ever say it's over.
Since I came out my mama, thinking God daddy never would. Prove him wrong every time till it's normal. Why worship legends when you know that you can join? These demons don't like me, they don't like me. Likely they wanna fight me. Come on, try it out, try me. They put me down, but I never cried out. Why me? We're from the wise. Don't put worth inside somebody that ain't tried. They said I wouldn't make it out alive. So
Alors là, évidemment, pour le clip, il n'était pas en petite tenue, voire nu, comme très souvent, mais ce n'est pas désagréable. Mais quand même, phénomène de outre-Atlantique, Lil Nas X, qui a révélé son homosexualité et qui en joue dans le genre et dans l'orientation. Très vite, avant de refermer ce nouveau premier numéro de saison, alors l'agenda, qu'est-ce qu'on vous réserve ? Demain, vendredi 15, c'est la conviviale à 20h, repas partagé. Samedi 16, 10h, la reprise des cours de français. Vous vous inscrivez sur contact@quasar.fr. À 14h, vous notez bien, c'est une heure spéciale d'intervention de la part de Ed en termes de santé sexuelle à destination des personnes transgenres, à genre et non binaires, avec tout ce qu'il faut savoir sur les modes de transmission VIH, à quoi il faut veiller et avec les outils de réduction des risques. À 15h, une heure après donc, c'est le Transat, le groupe d'échange pour non mixte, pour les personnes transgenres, à genre et non binaires. Voyez comme quoi tout est bien préparé et pensé. Et à 17h, permanence hebdo pendant 2h dans les locaux de Quasar. C'est la permanence historique, tout en notant bien que du lundi au vendredi, les locaux de Quasar vous sont ouverts, accueil permanence de 14h à 19h. Vous faites par exemple, comme Jus qui est venu cet après-midi, demander des contacts de spécialistes pour pouvoir suivre agréablement son quotidien et puis mener parallèlement sa transition. Mercredi 20, c'est la permanence juridique, avec dès 17h la possibilité de venir nous poser toutes vos questions. Samedi 23, on revient à 10h avec les cours de français et à 15h avec la permanence pour les jeunes 15-25. Si vous êtes intéressé, vous venez directement à Quasar, 15 rue de Jérusalem. Et à 17h, la permanence hebdo. Mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29, c'est le programme de Quasar qui accueille Grey Pride pour le bien vivre LGBT. Nous, on se retrouve pour la radio le 28 septembre à 20h pour un nouveau numéro de Quasar on the Air et samedi 30, toujours à 10h, les cours de français et puis, notez bien, la permanence. Bon, plein d'activités, vous l'avez vu, et puis octobre, on vous prépare de belles choses encore. On vous souhaite une très très belle soirée, tous les membres et toutes les pôles de Quasar finalement réunis par ma voix, c'était Stéphane Corbin. Je vous souhaite 15 prochains jours radieux, même si l'actualité est toujours un peu triste et grave, mais on garde le moral et puis on continue à lutter contre toutes les LGBTI-phobies. La bise, et on se donne rendez-vous le 28 septembre. Bye.